Ouais, Marie?
Je suis vraiment au niveau des studios.
Bah, attends, j'arrive.
J'ai plus mon bracelet. Ok.
Julien Demeyer, réalisateur du Book Club. Ça va?
Ouais, toi.
Ah, c'est hyper beau quand même.
Ouais.
Bon, très bien. On va rencontrer nos auditeurs.
Ouais.
Christelle et Nicolas.
Salut, Alex.
Hé, hey, Marie.
Tu cherches qui?
Bah, Christelle et
Nicolas. Christelle, elle est avec Léa là-bas.
Okay.
En train d'être un petit peu briefée par Léa. Ah, Léa. Et moi, si tu veux, je peux aller chercher.
Non, mais il n'y a pas d'urgence, on va travailler avec Nicolas.
Nicolas, hein. Qui ne doit pas être très loin.
Peut-être on se pose 2 secondes, on écoute des choses.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et Dieu créa la littérature aujourd'hui dans votre book club, c'est en tout cas ce qu'on apprend dans le prologue du dernier roman de Tonino Benacquista. Alors que le Centre National du Livre publiait il y a quelques jours son étude bisannuelle qui nous raconte encore la désertion des Français sur le terrain de la lecture et la progression des écrans sur celui de nos attentions, le romancier Tonino Benacquista imagine un éditeur en faillite qui dispose d'une seule nuit pour trouver une idée qui sauvera son affaire. Ayant toujours cru au pouvoir du romanesque et s'étant mis des dizaines d'années à son entier service, les romans vont peut-être lui rendre l'appareil. Un narrateur omniscient vient en tout cas à son secours, le milieu littéraire est dépeint dans ses plus mesquines habitudes et le salut arrivera peut-être du jeune femme influenceuse. Portrait d'époque donc. L'écrivain est notre invité aujourd'hui en direct du festival Livre Paris. Et c'est donc une émission doublement spéciale car je suis entourée de 2 auditeuristes membres du Book Club de France Culture. Ils ont lu le livre, ils seront à mes côtés pour mener l'entretien. Et à la fin, évidemment, on jouera à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous sommes ensemble, nous sommes nombreuses et nombreux. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Votre livre tiré de faits irréels apparu aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue dans ce Book Club spécial.
Et merci de votre invitation.
Merci beaucoup au public du salon Livre Paris qui a rejoint le studio de Radio France. Ça fait vraiment très plaisir de voir vos petites mines réjouies et souriantes. On est ravis de vous avoir avec nous. Et bonjour enfin à vous deux, Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour Marie.
Et bonjour Nicolas.
Bonjour Marie.
Vous êtes membre du Book Club de France Culture. Vous avez la carte, c'est clair. Et vous lisez des livres beaucoup et vous avez des comptes Instagram et vous parlez de vos lectures. Christelle, vous apparaissez sous le doux nom de Ta Prof de Lettres. Qu'est-ce que vous faites sous ce compte Instagram?
Alors, j'ai ouvert ce compte Instagram en 2021, quand j'étais encore enseignante en lettres modernes. J'y partageais des trucs et astuces, notamment pour le bac de français. Mais depuis, je chronique surtout des romans classiques et des romans contemporains.
Et vous les chroniquez de quelle manière?
À l'écrit ou en vidéo?
À l'écrit ou en vidéo. Vous suivez toute l'actualité littéraire? Vous suivez les classiques? Vous êtes attachée à un genre en particulier?
Non, j'essaye de lire un petit peu de tout, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais c'est toujours passionnant.
Je vous le confirme. Nicolas, votre compte s'appelle « Chaque livre est une fête ». Qu'est-ce que vous faites sur ce compte Instagram?
Eh bien, je partage pour m'amuser mes avis littéraires sur la littérature contemporaine, ce qui sort ou ce qui va sortir.
Voilà. Vous êtes au courant de ce qui va sortir?
J'essaye de me tenir au courant.
Et vous le faites sous quelle forme, ce partage, Nicolas?
Des petites chroniques assez courtes. Et puis, je propose de temps en temps des vidéos et ce qu'on appelle des stories sur Instagram. Voilà, c'est ma façon de présenter les choses.
Et la lecture tient quelle place dans votre quotidien, dans votre vie aujourd'hui?
La littérature, elle est en permanence dans ma tête, du matin au soir, même la nuit.
Même la nuit?
Même la nuit.
Parce que vous y pensez ou parce que vous lisez?
Parce que ça m'arrive de lire la nuit, comme beaucoup.
Christelle, quelle place tient la littérature ou la lecture dans votre vie quotidienne aujourd'hui?
La littérature, c'est ma plus grande passion et je ne peux pas me coucher sans avoir lu au moins 50 pages. Ça fait partie de mon quotidien.
Ça depuis longtemps, depuis toujours?
Depuis que je sais lire.
Ok. Le Book Club, vous démentez absolument toutes les études du CNL, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et puis voilà aussi de participer à cette émission. Ça nous fait très plaisir d'avoir en chair et en os les membres de ce Book Club et de cette communauté. Je vais passer mon temps à tourner ma tête vers l'un et vers l'autre. Ici, tout commence toujours par un portrait de nos invités en tant que lectrices et en tant que lecteurs. On fait d'abord leur connaissance en se demandant quel livre ils ont trouvé ou pas sur leur chemin. Est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres, Tonino Benacquista?
Non, il n'y en avait aucun. Il n'y avait aucun livre. Ça n'existait pas. Il n'y avait même pas un journal. Il n'y avait pas d'écrit. Rien n'était écrit, imprimé. Et puis les premiers livres que j'ai vus, c'était à l'école, quoi. et les découvertes. Alors, il y avait des choses qui étaient au programme. Et puis, il y a ce que je trouvais un peu au hasard. Mais c'était pas... L'amour de la lecture m'est venu très, très tardivement.
Ça veut dire quoi, tardivement, pour vous ?
Ça veut dire 40 ans.
OK.
Ça dit vraiment.
Et par quelle porte d'entrée ?
Non, c'est pas vraiment une porte d'entrée. C'est-à-dire que j'en ai 63 maintenant, donc je suis un lecteur passionné.
Jeune, hein, tout jeune,
non,
un ado.
Je suis un lecteur passionné parce que moi, je ne m'endors pas avec un livre, mais je me réveille avec un livre. C'est-à-dire que c'est le premier geste de la journée, c'est je me réveille vers 7 heures et là, je lis une heure ou deux. Bon. Et c'est devenu vital, indispensable et passionné. Mais cette histoire qui se termine bien, elle a très très mal commencé. Et... je ne vais pas dire que j'étais fâché avec la lecture, mais ça n'était pas... Personne ne lisait chez moi, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de respect de l'écrit. Et puis, certes, même si j'ai vraiment aimé lire à partir de 40 ans, ça ressemble un peu à une boutade, mais ce n'est pas faux. C'est-à-dire que je dis toujours que j'ai écrit avant d'avoir lu. Mais évidemment, il y a eu aussi quelques moments de révélation, voire de bonheur et de stupéfaction, effectivement. Et ça se fait par la communale. Mmh. Et pas forcément les choses qui étaient au programme. Moi, je me souviens d'avoir lu... Alors, l'avant-après, si vous me posez la question de quel est le livre, etc., pour moi, c'était Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui a véritablement changé ma vie. C'est quelque chose... Enfin, ma vie, c'est un peu une formule, mais disons, il y a eu avant-après.
Justement, c'est une formule qui est souvent prononcée au micro du Book Club, mais si vous essayez de lui donner du poids à cette formule et de nous dire pourquoi est-ce que ça aurait changé vraiment votre vie, Tonino Benacquista, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ?
Oui, je peux.
Bah alors, allez-y, si vous pouvez.
Non, c'est que j'étais un peu inhibé par rapport au roman. Le roman, pour moi, c'était des monuments. Les classiques français, c'était des monuments. C'était des citadelles imprenables. Et je me sentais pas habilité à visiter ces Hugo, Dumas, Balzac. Ça, c'est arrivé plus tard. Et c'était par un roman de Maupassant. Mais c'est arrivé plus tard. En revanche, voilà, j'ai entre les mains les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je sais pas, je dois avoir 11-12 ans. Là, déjà, le texte court, c'est-à-dire je découvre la nouvelle. C'est un engouement qui ne m'a jamais quitté, puisque encore aujourd'hui, mes auteurs de prédilection sont des auteurs de nouvelles. Et moi-même, je travaille cette forme-là, même si je sais qu'en France, ça n'est pas du tout...
C'est juste que ça ne se vend pas très très bien en librairie, c'est
non,
tout, voilà.
Déjà, mais en même temps, vraiment, on me dit non, moi c'est le roman. Bon. Mais la nouvelle, pour moi, c'est... Voilà, c'est une des formes... Une des formes suprêmes, quoi. C'est bon. Et là, en l'occurrence, ce bouquin, c'est ce qui était... Le bouquin sort en 1950. Moi, je le lis, je sais pas, en 71-12. Et aujourd'hui, 75 ans plus tard, je m'aperçois que toutes les nouvelles de Ray Bradbury, non seulement sont prophétiques, mais disent exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais exactement. C'est-à-dire avec une précision inouïe. Et ça, je pense que seule la fiction est capable de ça.
Voilà. Et on y reviendra parce que vous faites un vrai plaidoyer pour la fiction. Nicolas, vous avez été interpellé par un personnage qui compte ses heures de lecture.
Oui, Tonino Benacquista, je voulais savoir si vous vous êtes également amusé à compter vos heures de lecture. Vous en faites référence dans le livre.
En tant que lecteur...
Vous-même, oui.
Voilà, évidemment pas. Mais ça doit être à peu près un dixième de vos lectures à vous. Hein. Je pense que vous, ça doit être, je sais pas, voilà, mon éditeur, effectivement, il a calculé en manuscrit, c'est un dixième de sa vie. C'est un dixième de sa vie, voilà. Il a lu, six ans de sa vie. Six ans complètes de sa vie en lecture de manuscrits, dont très peu ont été publiés. Hein. Voilà. Et donc, il s'amuse à ça. C'est un calcul un peu masochiste. Mais je pourrais vous retourner la question.
Votre éditeur, votre personnage d'éditeur, Tonino Benacquista.
Oui, mon personnage d'éditeur, pardon, excusez-moi.
Christelle. Une des grandes questions du livre, c'est est-ce que l'on a encore besoin des livres ? Alors, oui. J'ai cru comprendre que vous lisiez régulièrement, mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous ouvrez un livre ? Qu'est-ce que vous cherchez quand vous ouvrez un livre ?
je cherche l'éblouissement, c'est-à-dire, la première question, parce que il faut que je vous fasse un aveu, je ne lis pas de littérature contemporaine. C'est horrible. C'est horrible de dire une phrase pareille quand on est en plein salon du livre. Mais comme j'ai lu très tardivement, je remplis les cases manquantes. Je lis ce que j'aurais pu lire plus jeune. Et donc, je ne lis que de chefs-d'œuvre, en fait. Tout simplement parce que ce sont des classiques et plus encore. Mais j'ai envie de m'attaquer à... Et justement, pour une affaire d'éblouissement, pour me dire, tiens... Eh ben oui, Cervantes, c'est un mot, etc. Mais quand on écrit des romans, on a envie de savoir ce qu'on a fait Cervantes. On a envie de lire 1500 pages de Cervantes, savoir comment il invente peut-être le roman moderne. Et puis pareil, et après je me dis, je vais en découdre avec Faulkner, je vais en découdre avec lui. Je sais que Sanctuaire, ça va être entre lui et moi, ça va être un truc. Ça va être à bras le corps.
Mais alors, c'est une bataille que vous avez gagnée avec Faulkner ou pas ?
Alors, je l'ai gagnée avec Faulkner. Enfin, gagnée. A-t-on jamais gagné avec Faulkner ? Mais par exemple, j'ai relu, mais là, je peux le dire, relu. Au-dessous du volcan, par exemple, au-dessous du volcan qui était le bouquin dont on parlait le plus dans les années 80, je le lis dans les années 80, il y a une espèce de folie autour de ce livre. Tout le monde boit du mezcal. Il y a un film de John Huston qui est l'adaptation du roman. Mais moi, je le laisse tomber à peu près au bout de 50 pages. Je n'y arrive pas. Et je me suis dit, tiens, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard...
Je vais retourner à Malcolm Lowry.
Et oui. Et je l'ai lu. J'ai pris deux traductions différentes. Quand l'une devenait un peu obscure, je passais à l'autre. Et je me suis posé énormément de questions sur la notoriété de ce livre, sur le plaisir. Tel moment, il y a des moments qui sont absolument enthousiasmants et d'autres qui sont des tunnels qui m'ont profondément ennuyé. Et je me suis dit, si je n'y prends pas de plaisir, en tout cas, je veux comprendre pourquoi c'est justement une citadelle et pourquoi ça ne déclenche pas chez moi un enthousiasme inouï.
Sur d'autres auteurs, Christelle.
Alors, dans votre livre, vous citez beaucoup d'auteurs. On retrouve Robert Musil, José Luis Borges, Shakespeare, Camus. Ce sont donc des auteurs que l'on retrouve dans votre bibliothèque.
Cela, oui. Oui, mais enfin, en même temps, j'ai pas de bibliothèque. Hein.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je ne stocke pas les livres chez moi. Je les achète, je les lis et je les dépose sur un banc. Je n'ai pas envie d'avoir de bibliothèque. Je me dis que les bouquins sont faits pour tourner. Et puis, même si j'ai envie de relire un truc que j'ai lu il y a 10 ans, je le rachète à nouveau. Je fais un peu marcher la librairie.
Il y a des livres perdus, justement, ou laissés à l'abandon dans votre roman, Tonino
oui,
Benacquista,
oui.
Et votre personnage réfléchit à ces livres qui circulent, qui sont abandonnés, qui sont laissés à l'espace public. C'est plutôt quelque chose de joyeux pour vous.
Oui, c'est joyeux. Sauf pour mon éditeur, hein, pour qui ça se passe très mal. Hein. C'est-à-dire que... Il y a 5 ou 6
votre
bouquins.
Votre personnage d'éditeur.
Oui,
sinon, on va croire que vous parlez de votre propre éditeur
raison.
Et on va être paumé.
Non, non, mais en plus, c'est un passage que mon éditeur a beaucoup aimé en tant que... Mais voilà, non, mon personnage, à un moment donné, sur un banc, il y a 5 ou 6 bouquins qui sont là. Et il y a donc un des siens, il y a un de ses bébés. Et puis, il s'aperçoit petit à petit qu'on prend tous les autres, sauf le sien, qui va prendre la pluie, qui va se retrouver par terre, déchiré, etc. Et il s'interroge, il se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu du mien ? Voilà. Donc pour lui, c'est une scène dramatique.
Il s'interroge beaucoup, votre personnage d'éditeur Tonino Benacquista, dans votre livre. On va en parler juste après cette chanson d'un duo musical qui s'appelle Oh Oh. Le duo réunit 2 musiciens, Victoria Sutter et Mathieu Daubigné. Leur nom de groupe renvoie à celui d'un oiseau hawaïen, malheureusement disparu. Ça pourrait être presque votre éditeur sur la fin de son métier, mais pas encore. Leur nouveau disque est titré Songs of Wishes and Bones, les chansons des vœux et des os. Et la chanson que nous avons choisie invoque même le crépuscule, le basculement du jour vers la nuit, la propagation du noir et le jour, beau joueur, qui revient toujours.
La lumière se dissout, soudain le crépuscule, mais le jour à genoux et cet instant bascule. La nuit est cupide, intontable et songeuse. Elle s'évapore comme l'eau aux lueurs songeuses. La lumière se
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est la crise aujourd'hui dans votre Book Club. Bertrand Dumas, éditeur, fait faillite. C'est le début de votre dernier roman, Tonino Benacquista, paru aux éditions Gallimard. On peut dire pourtant que c'était un des vrais, un vrai de vrai, un des grands convaincus. Il avait la foi, je cite, dans cette idée belle et incongrue que chaque roman paru avait une chance de remettre l'humanité d'équerre, ce qui n'est pas rien. Il pensait qu'un livre peut vous réveiller un mort, son enthousiasme n'avait jamais été érodé, il cherchait toujours, et avec la même pugnacité, les talents de demain. Seulement, le monde a changé et la place des livres dans ce monde a beaucoup changé aussi. Il reste une nuit à votre personnage pour trouver une idée lumineuse et peut-être sauver son affaire. Tiré de faits irréels, c'est le titre de votre roman dont nous parlons avec vous cet après-midi en direct du festival Livre Paris au Grand Palais à Paris avec nos deux auditeurs membres du Book Club de France Culture, Christelle et Nicolas. Alors justement Christelle, ce titre tiré des faits irréels vous a d'emblée fait réfléchir.
Oui, parce que forcément, en le lisant, j'ai tout de suite pensé à la fameuse formule journalistique tirée de faits réels. J'ai d'ailleurs souvent dit tirée de faits réels au lieu de tirée de faits irréels. Et je me demandais si c'était pour vous une manière de célébrer la liberté de la littérature, le territoire, de l'imaginaire.
D'une certaine manière, oui, mais de manière assez précise, les faits irréels, c'est la fiction. Voilà, j'ai toujours travaillé la fiction comme thème. Comment la fiction, est-ce qu'on a besoin de fiction? Comment agit-elle dans nos vies, dans nos esprits? Et là, en l'occurrence, c'est la fiction, mais uniquement littéraire et romanesque. Donc, tirer de faits irréels, c'est tout ce que la fiction, et donc notamment la littérature, a à nous apprendre du monde dans lequel on vit. Voilà, c'est juste ça.
C'est déjà beaucoup. Quand vous dites « j'ai toujours travaillé la question de la fiction oui. », comment est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui ne connaissent pas par cœur votre œuvre romanesque, Tonino Benacquista, comment ça s'est déployé, cette question-là, de roman en roman, qui est une immense question?
Ah mais oui, mais je peux rester très longtemps sur cette question, mais je ne vais pas le faire. Non, il y a 25 ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Saga », où il y a quatre scénaristes... Voilà, qui, un peu à la ramasse, comme ça, se entre en synergie pour créer ce qu'on va appeler une série aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, je voulais voir cette espèce de comment quatre imaginations vont entrer en synergie pour créer de la péripétie. Voilà. J'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour les scénaristes. Avant tout, hein. Avant les écrivains, j'aimais beaucoup les scénaristes. C'est quelque chose, ce soit Goscinny, Stanley dans la BD, et puis tous ceux au cinéma. Et ensuite, Voilà, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Romanesque. C'est-à-dire, où je me dis, est-ce qu'on a besoin de légendes encore? Est-ce que la légende, c'est une histoire qui court sur 3000 ans? Et je me dis, mais est-ce qu'on a besoin des légendes, celles qui ont bâti nos civilisations? Est-ce qu'on en a encore besoin? Voilà, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une. Ben là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui se fâche avec le monde réel. Ça peut nous arriver à tous tout le temps.
Ça peut nous arriver, en effet, ouais.
Et ben, il passe par la fiction en se disant, bah, peut-être je vais trouver des trucs là que j'ai pas de réponse. Mais peut-être la fiction va m'en donner. Et puis, là, dans Tiré de faits irréels, je me dis, voilà, qu'est-ce que le romanesque, le roman et le romanesque, voilà, est-ce qu'il a encore quelque chose à dire? Et la littérature a-t-elle encore quelque chose à nous dire?
Oui, c'est vraiment la grande question qui travaille votre personnage d'éditeur et tout l'entièreté du roman. On va lire le prologue de votre roman, Tonino Benacquista, sous la grande nef du Grand Palais à Paris. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il sépara la terre des océans, et puis créa la verdure et les arbres donnant du fruit. Puis il créa les poissons, les oiseaux et tous les animaux terrestres. Il observa alors la délicate harmonie qui déjà régnait ici-bas, les splendeurs de la nature, la douceur des éléments, le rythme des saisons. Il vit une harde de chevaux galoper en bord de mer au soleil couchant, des baleines chanter en rejoignant les pôles, des fauves traverser la savane, des aigles survoler des sommets enneigés. Il s'émerveilla de l'intelligence du vivant en voyant des dauphins se parler, des singes se faire rire. Il vit une louve allaiter un chaton orphelin, un rat secourir un frère dans la détresse, un couple de cygnes se jurer fidélité. Un éléphant éprouvait le deuil d'un congénère. Il vit l'élégance dans le geste du chat et le dévouement dans le regard du chien. Et Dieu vit que tout cela était bon. Or, il lui restait à accomplir son chef-d'œuvre, l'homme, appelé à dominer la flore et la faune et à disposer de la terre comme bon lui semblerait. Et Dieu fut pris d'un doute. L'amour, la sagesse, la solidarité et l'empathie étant déjà distribués et à l'œuvre, il réalisa trop tard que son ultime et chère créature, n'ayant plus à les incarner, apporterait avec elle le chaos dès son arrivée dans le jardin d'Éden. Alors Dieu chercha comment éveiller l'homme à la beauté naturelle qui l'entourait et lui donner à voir la complexité du monde qui désormais serait le sien, comme celle de sa propre psyché. Et l'aider, plus que tout, à contenir le mal qu'il lui restait à commettre. Alors, Dieu créa la littérature. Ce n'est pas rien, Tonino Benacquista, de commencer un roman avec des allures de genèse, en toute simplicité. Christelle, ça vous a inspiré quoi comme question ?
En fait, tout au long du roman, je trouve qu'il y a la question de la foi dans le romanesque. L'éditeur, qui est donc le personnage, a une foi absolue dans le romanesque. J'ai l'impression que c'est votre cas aussi. Mais selon vous, que peut encore la littérature ?
Waouh !
Allez ! Il ne fallait pas écrire un roman comme ça en même temps.
Vous avez 2 heures. Non, c'est alors là, comment dire, je ne vais pas me cacher derrière mon personnage, mais je vais le faire quand même. C'est-à-dire que effectivement, tout va se dérouler en une seule nuit. Lui ferme la boutique, c'est terminé. Mais il lui reste justement une nuit et il se dit. Le romanesque que j'ai tellement servi, c'est pas possible. Il va me venir en aide. Il va y avoir une péripétie, un rebondissement, un truc, un coup de théâtre qui fait que je ne fermerai pas la boutique. Et donc, évidemment, toute la nuit, le romanesque va le poursuivre et va l'aider, ou en tout cas va lui mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, le romanesque sera au rendez-vous. Mais il y a un deuxième, je veux dire, un, une deuxième ligne de narration qui serait pourquoi est-ce qu'on ne veut plus de mes livres ? Alors lui, il ne publie que de la fiction, ce qui est très important. Il ne publie que des romans et des nouvelles. Il a une espèce de gêne en ce qui concerne les essais. Voilà, dès qu'il y a du sens qui se met en place, il est très angoissé. Par contre, dès qu'on lui dit « il était une fois », alors là, il accepte tout, il prend tout. En 40 ans, il prend 641 manuscrits.
Lui raconte des histoires.
Voilà, des histoires, ouais. Et ce questionnement-là, il se dit, mais il y a 10 000 romans qui sortent par an, je crois que c'est... En plus, c'est un chiffre assez ancien, mais 10 000 romans qui sortent par an en France, et les miens, non. Pourquoi plus les miens ? C'est une injustice terrible. Et là, il va se poser des questions, il va se dire, et qui sont peut-être ceux du lecteur, il va se dire, voilà, mais est-ce que c'est l'époque qui a changé ? Ou est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est mes propositions qui n'ont plus d'intérêt ? Est-ce que c'est l'époque ? Ou alors est-ce que la littérature n'a plus rien à nous dire ? Le roman, toutes les histoires ont été racontées, on n'en veut plus ? Ou alors maintenant, à travers justement les réseaux sociaux, chacun raconte sa propre fiction ? Donc voilà, est-ce qu'on a besoin de littérature ? Qu'a-t-elle encore à nous dire ? Et donc il va rencontrer des personnages qui vont lui dire « Mais non, mais de toute façon, les livres n'ont jamais servi à rien. Depuis le début du premier, de l'ère Gutenberg, personne, ça n'a jamais servi à rien, le roman, et en tout cas, la littérature en général. » Et lui, il rencontre un personnage comme celui-là et le considère immédiatement comme délirant. Lui, l'idéaliste, celui dont vous parlez, qui est effectivement un idéaliste, ne refuse de le croire. Et puis à un moment donné, l'important c'est que ces questionnements, c'est-à-dire que mon roman n'est pas là pour répondre à une question aussi cruciale que la vôtre. En revanche, parce que le roman n'est pas là pour apporter des réponses, mais en tout cas, peut-être qu'il peut mettre en avant les bons questionnements. Voilà, peut-être.
Vous parlez d'un personnage qui est plus pessimiste que votre personnage principal, Toneno Benacquista, et qui porte une musique pas très drôle. Qu'est-ce que vous vous demandez à ce propos, Nicolas ?
Vous dites que le personnage se demande pourquoi il ne vend plus de livres. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite musique récurrente dans le roman qui dit que la littérature, c'était mieux avant ? C'est quelque chose qui est un peu cyclique, qu'on entend tout le temps.
Non. Non, je crois pas. Non, et bien évidemment, ces références, quand il parle de littérature, ces références... Alors, il y a tous les romans que lui a publiés, donc je cite des extraits du roman contemporain. Je cite des extraits de ses auteurs à lui. Et puis, j'explique aussi ce pourquoi il a eu envie de devenir éditeur. C'est-à-dire, Borges est pour lui... Il a rêvé à Borges... En ouvrant sa maison d'édition. Est-ce que c'est dire que la littérature c'était mieux avant ? Je ne pense pas. Surtout qu'il est très fier des romans qu'il publie aujourd'hui, sauf qu'on n'en veut plus. Et pourquoi on n'en veut plus ?
Vous parlez de la figure de Borges, Toneno Benacquista, c'est une figure qui vient à son secours, à ce personnage principal, car en effet, à un moment donné, il va chercher secours chez un narrateur omniscient, il va chercher secours dans des souvenirs, dans des extraits de livres, vous l'avez dit. Et à un moment donné, apparaît la figure de Borges comme une figure très importante. On entend un nouvel extrait de votre livre. Il existe d'ores et déjà un livre qui raconte la suite de ma vie telle qu'elle va se dérouler au détail près jusqu'à ma dernière heure. Cet ouvrage est archivé dans un lieu imaginé par Georges Luis Borges, la bibliothèque de Babel. Il y a notamment dans cette bibliothèque des livres donnant raison à Reynald, qui raconte comment l'humanité va bientôt s'éteindre. Mais d'autres démontrent exactement l'inverse. La civilisation saisit sa toute dernière chance et se réinvente. Les dieux existent sous forme d'essais et de romans aussi convaincants les uns que les autres. Ou encore, il y a le roman parfait, intelligible dans toutes les cultures, toutes les classes sociales, et dont les perspectives de vente dépasseraient de loin celles de la Bible. Le lecteur en moi y découvrirait dans leur forme aboutie tous les romans que Flaubert, Musil, Dostoïevski, Stendhal, Camus et Pérec ont laissés inachevés, mais aussi 10 pièces inédites de Shakespeare. Cette idée que toute la littérature, qui n'est donc pas infinie, était virtuellement consigné quelque part dans l'univers, avait agi comme une masse qui abattait une cloison de mon cortex pour y faire entrer la lumière. Ainsi donc, l'indicible n'existait pas et rien n'était impossible au langage, à condition qu'un auteur ici-bas le mette en ordre, comme s'il avait trouvé le bon volume dans le bon rayonnage, du bon couloir, du bon étage de ce vertigineux édifice littéraire.
Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a deux idées. D'abord, il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne, qui est un lieu commun, l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, sans doute, sans que je m'en trouble beaucoup, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise, et ne pas savoir quelle est la vraie solution. C'est-à-dire, dans ces contes-là, et je l'espère dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle, et puis il y a l'autre partie, qui est plus importante, je pense, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère mystérieux de l'univers, du temps, et ce qui est plus important, de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non ? Et je crois que dans tous mes contes, on trouve ces deux éléments. Ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Il y a une nécessité, si le mot n'est pas trop fort, qui m'a été poussé à les écrire. Et puis je me suis amusé aussi, parce que cette corvée, enfin, d'écrire un conte, cela n'a pas été seulement une corvée, je me suis amusé aussi. Cela était un jeu, un peu comme le cas d'un joueur d'échecs, par exemple, non ? Il y a là un problème, il y a un amusement et une joie aussi.
La voix de Borges que vous écoutez tout près de l'enceinte Tonino Benacquista dans la Grande Nef au Festival du Livre Paris au Grand Palais à Paris. Il termine dans cette archive de 1965 par évoquer la joie, le côté joueur de l'écriture malgré le labeur. Christelle, ça vous a interpellé ce rapport à la joie dans la voix de Borges ?
Alors oui, particulièrement parce que j'ai pris un immense plaisir à découvrir la galerie de personnages que vous proposez dans le roman et je me demandais quel personnage en particulier ou s'il y en avait un que vous aviez pris le plus de plaisir à écrire. Vous
voulez dire des portraits d'auteurs par exemple
ou... Oui, ou même parmi tous les personnages qui entourent l'éditeur.
C'est difficile de reprendre la parole après ce qu'on a entendu. Hein. C'est... L'homme qui dit la nécessité de ce que j'ai fait si le mot n'est pas trop fort. C'est-à-dire, cette modestie quand on a écrit ce qu'il a écrit, ça me paraît complètement fou. Bon, bref. Mais là, je peux répondre à une banalité absolue. C'est-à-dire que mes personnages, je les aime tous. Si vous me parlez de mes personnages, c'est ça. Je les aime tous. Je les respecte tous. Je n'en juge aucun. Je suis un peu tous à la fois. Je suis aucun... véritablement pas l'un d'entre eux, mais surtout je ne les juge jamais. C'est-à-dire que si un narrateur omniscient en parle, eh ben il laissera la possibilité absolue à n'importe quel lecteur, et ça moi j'y tiens. Je tiens à ce que n'importe quel lecteur garde son libre arbitre et se dise « Ah, quel bon moment j'ai passé avec ce personnage ». Ou alors dire du même personnage « Ah non, mais quel idiot congénital, c'est une horreur. » Voilà. Je pense que dire ce que je pense de mes personnages, les juger, c'est hors de question. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est au lecteur de faire ce travail-là. Voilà. Je peux développer beaucoup, mais je n'ai pas à désigner celui qui pense bien, celui qui agit mal, celui qui. Non, non. Ils sont dans une espèce de structure, dans un labyrinthe. Le lecteur, voilà, entre dans ce labyrinthe, il croise les personnages, il les aime, il les repousse, il les attend, il les guette. Mais je n'ai pas à dire, regarde celui-là. Ah non, celui-là, pas celui-là. Non, jamais. Jamais, jamais. Et je crois dans aucun des bouquins que j'ai fait.
En tout cas, ce que sentait Christelle de la jubilation et du plaisir, oui. Et ce que disait Borges de la joie et du jeu, ça fait partie de votre travail d'écriture, Tonino Benacquista.
Oui, oui, c'est. Enfin, j'espère, parce que je. Un bouquin comme celui-là, par exemple, on pourrait se dire, oh là là, ça parle d'édition, de littérature, ça dit des choses profondes sur je sais pas, oui, les personnages, la littérature, le bien fondé de la littérature. Moi, Borges fait ça, mais magnifiquement, parce que lui, ce sont carrément des exploits de la pensée. Et quand il fait une nouvelle de 10 pages, c'est un exploit de la pensée. Un exploit, comme un champion qui fait une performance. Avec 10 pages, c'est un exploit. Voilà. Mais il le fait avec une élégance qui nous débarrasse de l'esprit de sérieux. Et ça confine au génie. Voilà. Il est capable de nous parler de Dieu, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Mais tout ça, en nous débarrassant de l'esprit de sérieux. Et ça, je trouve ça magnifique. Dans Tiré de faits irréels, j'ai voulu qu'il y ait une tonalité qui soit de l'ordre de la comédie. Voilà. J'ai pas eu envie d'être démonstratif ou sentencieux ou je sais pas quoi. J'ai eu envie que quand on voit ce personnage se prendre les pieds dans le tapis, que ce soit drôle.
Bah alors justement, sur le moment où il se prend les pieds dans le tapis, ce personnage d'éditeur, peut-être on en parle un peu plus précisément, et ce monde de l'édition, ce monde littéraire, Nicolas.
À la fin du roman, vous remerciez tous les éditeurs qui vous ont parlé de leur métier.
Les éditeurs.
Oui, c'est oui, ça. Oui. Comment ils vous ont aidé à construire votre personnage et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces entretiens en fait?
Ils sont ultra secrets.
On imagine.
Non, mais c'est non. Déjà, je pense que cette année, donc 80, j'ai publié mon premier bouquin en 85. Je me souviens, j'étais venu ici d'ailleurs au Salon du Livre, à l'époque où c'était au Grand Palais, avant, dans le monde d'avant. Et donc, ça fait 40 ans que je publie cette année, enfin 25.
Bah, joyeux anniversaire.
Et en 40 ans, figurez-vous que j'en ai vu beaucoup défiler des éditeurs. J'en ai rencontré des... Moi, c'est un boulot que je serais incapable de faire. Hein. C'est-à-dire, jamais, jamais. Mais...
Justement, Nicolas se demandait, est-ce que c'était peut-être quelque chose qui vous aurait tenté ?
Jamais, jamais, jamais. Non, mais jamais. C'est jamais. J'aurais pu tout faire sauf ça. C'est-à-dire que pour moi, un manuscrit est un objet qui n'est pas fini. C'est un objet en devenir. C'est le mien. C'est celui que je travaille pendant 2-3 ans. Et puis, non. Voilà. Quand c'est... Bon. Ça n'est que quand le bouquin est imprimé que ça devient un livre. Enfin, je veux dire, c'est quand je vois le truc imprimé, je serais incapable, je crois, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, mais je le pense fermement, je pense que j'aurais raté L'étranger de Camus sur manuscrit, je l'aurais raté. J'aurais dit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce mec qui se balade sur une plage? Enfin, c'est quoi ce machin? Sa mère est morte hier et tout. Bon. C'est une quintessence de chef-d'œuvre. Je l'aurais raté en tant qu'éditeur, j'en suis sûr. Voilà. Et ça, c'est l'admiration que j'ai pour les éditeurs qui misent. C'est-à-dire qu'ils sont là et qui disent, voilà, j'en ai lu 40. Bon, mais il y en a 39, non, ils sont pas pour moi.
Et ils ou elles vous ont dit ça dans les conversations, encore avec la foi de miser sur des textes.
Alors, c'est-à-dire, ceux que j'ai sollicités, je les ai un peu sélectionnés. Hein. C'est un peu des... Voilà, c'est plutôt des gens qui sont dans cette sphère qui est très littéraire, etc. Mais j'en ai rencontré beaucoup d'autres, et il est question de ça dans le bouquin. C'est-à-dire, à un moment donné, il est question du trop de livres. Trop de livres, là, dire ça en plus au Salon du Livre de Paris, mais...
Bah, c'est le moment où jamais, non?
C'est le moment où jamais. Non, mais c'est... Moi, je serais incapable de dire s'il y a trop de livres ou pas assez de livres. C'est-à-dire, moi, en tant qu'auteur, je n'ai pas à répondre à cette question. En revanche, un éditeur, lui, doit répondre à cette question. C'est-à-dire, il est là, il y a l'éditeur qui tombe sur, selon lui, la perle rare, et il va se battre pour ce bouquin. Et jusque dans la librairie, il va se battre pour ça. Et puis, il y a l'éditeur qui va jouer la loterie et qui va dire, bon, bah, j'en mets 10 sur le marché, je sais très bien qu'il y en a 9 qui vont passer à l'as, et puis il y en a un qui a peut-être une chance de s'en sortir. Donc, c'est un autre type de calcul, et c'est un autre éditeur. Voilà. Et là, il y a les deux dans ce bouquin, il me semble.
Pourquoi votre personnage d'éditeur refuse toutes les mondanités?
Mais en fait, pourquoi? Parce que, en fait, il se dit, mais j'ai peut-être eu tort, tout ça. J'aurais peut-être dû publier des bouquins beaucoup plus à la mode, ou j'aurais peut-être dû aller serrer des bonnes mains dans les bons endroits, etc. Et puis j'aurais peut-être dû, je sais pas, aller voir des gros groupes, me faire racheter. Donc il a toujours été très intègre, idéaliste et très intègre, sauf que maintenant, bon, bah, ça lui a pas servi à grand-chose, puisque pendant 40 ans, oui, et puis là, maintenant, il ferme boutique. Donc en une nuit, et c'est ça qui m'amusait, d'un point de vue romanesque, il va faire en une nuit tout ce qu'il s'est interdit de faire en 40 ans. C'est-à-dire aller dans un cocktail mondain, essayer de se faire racheter par un grand groupe, essayer de s'attirer les bonnes grâces d'un juré d'un grand prix littéraire, etc. Il va tout faire, et évidemment, ça va aller de mal en pis, forcément.
Christelle, non, c'est parce que quand vous dites Tonino Benacquista, il va tout faire, tout ce qu'il s'est interdit pendant 40 ans. Avec Christelle, on se disait, mais c'est comme s'il comprenait les règles du jeu au moment où il le perd.
Absolument. Oui, c'était votre hypothèse.
Oui, c'était ça. C'était qu'en fait, alors je me suis demandé si pendant 40 ans, il avait vu ces règles du jeu, mais il avait refusé de les jouer avec une certaine fierté.
Oui.
Et en fait, donc il n'en prend pas conscience à ce moment-là. C'est juste qu'il dit, j'aurais peut-être dû le faire depuis 40 ans.
Exactement. Exactement. Il s'est interdit ça parce que c'est effectivement, comme on l'a tous dit ici, c'est un idéaliste. Mais à quoi ça lui a servi à quoi? Et là, il va se dire, mais non, mais je vais peut-être me compromettre parce que c'est peut-être ça la vraie solution. Et en plus, c'est pas de la compromission non plus. C'est passer par des voies détournées. Voilà. Il va se dire, ah bah tiens, si j'avais un grand prix, ça serait pas mal quand même. Là, je sauve la boutique avec un grand prix. Et etc., etc. Donc il y a un peu il y a ce Landerneau éditorial avec ses règles, etc., etc. Et puis il y a ce type qui est quelqu'un qui n'a cru que à la littérature et au texte. Et puis je pense, voilà. Et puis il se dit, voilà, est-ce que j'ai bien fait?
Bah, ce que sous-entend votre texte à vous, votre roman Tonino Benacquista, c'est que dans un monde contemporain, un homme qui n'aurait cru qu'à la littérature se plante, en tout cas se plante du point de vue du marché, parce qu'il y a toute une dimension dans ce livre-là qu'on a peu abordé jusqu'à maintenant.
Oui.
C'est l'argent. C'est le fait que les livres, ça se vend, que des gens qui sont un peu plus intéressés par l'argent que par la littérature se mêlent d'éditions.
Oui, absolument.
Vous rencontrez quand même, en écrivant, une forme de peinture d'un paysage éditorial aujourd'hui où les gens qui n'ont que pour but de faire vivre la littérature deviennent de moins en moins nombreux moins en moins de pouvoir.
Et ben c'est exactement ça. Je ne rajoute rien. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire son idéalisme, à quoi bon? Mais son bonheur de la découverte. Voilà, il explique qu'il ne peut pas résister à un bouquin un manuscrit qu'on lui envoie. Et ça, c'est les moments où je le trouve le plus lyrique. C'est quand il dit « je peux pas ». Je ne peux pas ne pas découvrir ce manuscrit, en lire 10 pages, découvrir les dédicataires, l'incipit, etc. Parce que il sera mu par cette passion. Mais en même temps, son idéalisme, je me dis, voilà, est-ce qu'il a bien fait? Moi, j'en suis pas absolument sûr. Quand il dit à un moment donné, il dit, mais ouais, ce bouquin-là, je l'ai refusé, alors que, avec cette gagneuse, j'entretenais 10 danseuses. Mais oui, bien sûr que oui, il aurait mieux fait de publier ce bouquin-là.
Oui, mais ça, c'est jouer au poker. Oui. Il y a aussi éditer de la littérature. On peut dire que ce sont deux chemins de vie et de travail un tout petit peu différents.
C'est un peu ça, mais, et si, à la fin, il était récompensé? Et si sa foi était...
Il aurait gagné au poker.
Voilà.
On l'a jusque dit un petit peu, vous êtes assez drôle dans votre narration, Tonino Benacquista, vous êtes aussi un peu acide. En tout cas, vous ne faites pas de cadeaux à un monde littéraire aux coutumes vraiment pas très glorieuses. Et vous vous moquez gentiment, on sent aussi tendrement. On va écouter un autre extrait de votre livre. Ferait un Goncourt méritant, consensuel, disponible et capable de représenter à lui seul la littérature française pour une durée d'un an. une Miss France des belles lettres, prête à se plier à tous les usages, à obéir à son attaché presse, à causer dans tous les postes, à parcourir les régions, à lever son verre pour la photo, à flatter les élus, à signer des palettes de livres. Une fois le devoir accompli, il se rendrait à Avignon pour faire le tour des agences immobilières, tout en émoi à l'idée de lui trouver le mas de ses rêves, qu'en aucun cas il n'aurait pu s'offrir avec les droits d'auteur que je lui versais jusqu'alors. Bientôt, il affronterait la malédiction dont tous les écrivains de France, sans exception, aimeraient être frappés, dite de l'après-Goncourt, car comment prouver que sa plume compte encore quand on a décroché le titre suprême ? Il me faudrait alors, car cela fait aussi partie du métier, le consoler de ses succès comme je le consolais de ses infortunes quand il était de ceux dont nul ne s'arrachait la dédicace. Je lui rappellerai ces moments de grande solitude dans les salons du livre où derrière sa pile de bouquins, comme tous ses confrères, il affectait de paraître occupé, à consulter le programme du jour, à tripoter son téléphone, à griffonner sur un bout de papier, à bavarder avec le libraire quand en fait tous autant qu'ils sont, le biographe pointu, le romancier exalté, le mémorialiste érudit et le poète habité pensent très fort la même chose. Arrête-toi, Chaland. Aie pitié. Toi qui passes sans même un regard pour mon bouquin, arrête-toi, bon Dieu, pourquoi pas moi ? Tu sais, je suis venue de loin, d'accord, on ne l'achète pas, mais fais semblant de t'intéresser, on échange quelques mots, allez ! Tout mais pas cette confirmation dans ton indifférence que je n'existe pas, que je suis invisible, que j'ai fait tout ce boulot pour rien. Un extrait de votre roman Tonino Benacquista, tiré de faits irréels que je lis sous la nef du Grand Palais à Paris. Un roman que vous allez revenir signer ici en dédicace. Vous allez jouer le jeu un peu.
Ah oui, non mais j'ai beaucoup été cet
auteur qui supplie le Chaland de s'arrêter.
Qui fait semblant de s'occuper alors qu'il se dit bon, bah ça, je suis là depuis 2 heures et voilà quoi.
Ça vous a amusé, Nicolas, cette description du fonctionnement des prix, du jeu qu'il faut jouer ?
On a vu dans cet extrait que vous êtes cinglant et drôle et on se dit que vous êtes quand même sacrément amusé à critiquer le système des prix et le système du marché.
Pas critiquer, oui, de temps en temps je peux être un peu sarcastique, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un portrait au vitriol du monde de l'édition m'intéressait pas forcément, même si effectivement ok, c'est il y a pas d'angélisme là-dedans, non, c'est le Landerneau et peut être décrit de manière assez cruelle, mais en même temps voilà, j'ai l'impression que c'est un bouquin qui parle beaucoup plus de littérature qu'il ne parle d'édition, voilà. Et de toute façon, alors là, ce que je précise absolument, c'est que ça n'est pas un roman à clé. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas un tel derrière tel personnage. Ça, j'aime bien que le lecteur dise « Oh bah lui, c'est lui, là
oh !» bah, Vous avez fait,
Nicolas.
Ah
ouais.
Oh bah lui, c'est machin dire bon. Mais alors, pour moi, c'est personne. C'est-à-dire que ce ne sont pas, juste pour le coup, des personnages réels, mais ce sont des caractères, ou ce sont des archétypes d'écrivains. Là, oui. Il y a l'écrivain qui n'aime pas écrire, par exemple. Alors là, oui. Alors là, je ne pensais à personne en particulier. Mais j'ai décrit au travail un écrivain qui n'aimait pas écrire. Voilà. Et là, je me suis beaucoup amusé. Là, je veux dire, comment la séance de travail de quelqu'un qui adore publier mais qui n'aime pas écrire. Ça, je me suis beaucoup amusé à ça. Mais après, voilà, il y a aussi des auteurs auxquels l'éditeur de ce roman croit énormément et pour lesquels il a une formidable admiration, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Mais si vous avez vu, vous allez dire « Ah bah lui, c'est machin forcément bah », là, tant mieux.
J'ai commencé, Tonino Benacquista, cette émission en citant l'étude du bisannuel du CNL qui dit le recul toujours de nos heures de lecture et la progression de nos heures d'écran. On ne peut pas ignorer le moment délicat que traverse la publication des livres, la place de la littérature dans l'espace public, la lettre, le rapport même à l'écriture. Il y a quelque chose fin de règne dans ce roman que vous faites avec le sourire, avec humour, ironie, mais quand même un peu fin de règne. Est-ce que ça traduit votre état d'esprit à vous, pour le coup, si on s'autorise une petite question plus personnelle ?
Alors là, il y a, enfin, comment dire, Si effectivement il y a, telle étude va dire qu'il y a moins de lecteurs, mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de livres ? C'est-à-dire pourquoi y a-t-il 60 000 livres publiés par an en France ? Pourquoi de plus en plus de livres et de moins en moins de lecteurs ? Moi, le dernier chiffre que j'ai entendu chez un éditeur, c'est ce qu'on considère comme un grand lecteur, un gros consommateur de livres. Le chiffre vraiment communiqué par un éditeur, c'est 8 livres, tout genre confondu, 8 livres par an. Voilà. Ça, c'est. Les éditeurs comptent grandement sur ce lecteur-là. Mmh. 8 livres par an. Il y en a 60. Il y a 60 000 livres qui sont publiés en France. Voilà. Et l'autre aspect qui pourrait peut-être à répondre à votre question, parce qu'elle est complexe. Mais je pense qu'aussi, il y a l'idée qu'on se fait de la littérature par rapport à l'usage qu'on en a. Voilà. Et je pense que nous sommes dans un pays où, effectivement, l'idée de la littérature est absolument sacrée. Et on va dire tant mieux, d'une certaine manière.
Aujourd'hui encore, vous diriez ?
Oui, oui. Mais oui, parce que on va dire, ah, personne ne va vous lire. Oh non, mais moi, ça me gonfle d'ouvrir un bouquin. Personne ne va vous le dire. Non, non, personne. Non, non, il y a encore une haute idée de la littérature, mais elle est inversement proportionnelle à cette étude dont vous parlez tout à l'heure. Là,
j'ai lu un passage où c'est un auteur qui implore le chaland de s'arrêter dans un salon. Et il y a un autre moment de votre livre où l'éditeur implore tous ceux qui n'auraient rien à faire avec le livre de les laisser tranquilles. Il implore les gens qui ont à voir avec le luxe, les gens qui ont des actions en bourse, des gens qui se préoccupent d'immobilier, bref, des gens qui se préoccupent d'argent. Et il leur dit, mais laissez-nous faire, en fait, nous... On croit à la poésie, on croit que les mots changent les êtres, on croit que les mots peuvent remettre l'humanité d'équerre. Foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Ça aussi, c'est une position idéaliste de votre personnage éditeur.
Oui, oui, sauf qu'il il va se compromettre immédiatement. Il veut être racheté par un gros groupe. Ouais, c'est vrai, il se pose une question assez naïve, lui qui a ouvert sa 641 titres en 40 ans. Bon. Mais il dit, mais s'il y avait de l'argent à se faire dans l'édition, je le saurais quand même. Enfin, je veux dire, les éditeurs, même les très gros, le sauraient. Enfin, je veux dire, c'est... Et alors, on va se dire, oui, mais on va racheter, on va créer des consortiums et des groupes et des machins. Moi ça me surprend. Il faudrait qu'un...
Ah bah, de fait, les gens qui mettent leur argent là-dedans ont probablement quand même des intérêts à le faire. Ce sont des gens assez informés sur la question.
Mais bien sûr que oui. Mais pourquoi ? Et lui se dit, mais pourquoi ? Il y a du réseau d'influence, acheter de la littérature, c'est quoi ? C'est de la marchandise intellectuelle, mais un peu noble, un peu patrimoniale. Pourquoi ? Pourquoi s'intéresser quand on est un investisseur ? Pourquoi s'intéresser à la littérature ? Bah, c'est un truc, en tout cas, au livre même, c'est un truc qui m'échappe.
Vous choisissez de donner plutôt une happy end à votre roman, Tonino Benacquista, sans la dire. Oui. Il trouve une solution. Ça vous tenait à cœur qu'il s'en sorte pas mal, personnage d'éditeur, que ce soit pas complètement la galère pour lui.
Non, mais bien sûr que oui. De toute façon, parce que j'aime bien, moi, la petite lumière au bout du tunnel. Moi, je crois que je n'ai écrit que des romans où, à la fin, il y a cette petite lumière, là, au bout. Voilà. Parce que sinon, on se dit à quoi bon. Alors, je sais pas forcément pour le happy end, un peu béat. C'est pas tellement ça. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que... Alors là, on vend la mèche en disant ça. Mais oui, il va s'en sortir. Mais il va s'en sortir comment ? Il a essayé toutes les solutions complètement diaboliques. Et en fait, il va s'en sortir comment ? Bah, en faisant son métier. Voilà.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Et mes auditeurs, accompagnateurs d'interviews aujourd'hui, Christelle et Nicolas, vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun book club ne se termine normalement sans grand jeu des pages musicales. Qui est vraiment fidèle de cette émission ? Qui rappelle le principe ? Christelle ?
Oui, Christelle.
Mais si, Christelle. Christelle, c'est quoi Christelle. Le grand jeu des pages musicales ? Non, elle me fait vraiment non avec sa main. Nicolas, non, ok, c'est donc moi qui vais le faire. Le grand jeu des pages musicales consiste à chercher de la musique dans les livres et à les partager via le compte Instagram ou via l'adresse mail du... Book Club, le book club@radiofrance.com. On a joué et on a trouvé de la musique dans votre livre, Tonino Benacquista. Deux adolescents dans un concert, le poing brandi, arborant le même t-shirt à l'étoile noire. Le cri de l'anarchie qui nous galvanisait n'était pas celui de Rimbaud, de Proudhon ou de Léo Ferré, mais celui d'un certain Joe Strummer, leader d'un groupe punk qui prêchait le chaos, le clash. C'était du reste le nom de son groupe, The Clash, qui nous exhortait à mettre le monde à l'envers, mais avec du style et des références. C'est ce même Joe Strummer que 10 ans plus tard j'avais reconnu sur une plage de la Côte d'Azur, incognito et défraîchi, et qui, à grand renfort de fuck les maîtres à penser, m'avait invité sans le savoir à baptiser ma maison Bertrand Dumas éditeur. Enzo, on en fait quoi de notre belle jeunesse et de notre révolte? On s'engage.
Rock the Casbah, rock the Casbah.
Yes.
Man, you let that father drop. You're down a desert way, shaking to the top. Shaking to the skyline, cruising down the bay. Who's the one standing?
Merci beaucoup Tonino Benacquista d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
En direct du Festival Livre Paris au Grand Palais. Votre livre s'appelle Tiré de faits irréels. Il est paru aux éditions Gallimard. Vous allez venir signer donc dimanche.
Dimanche, entre 13 et 14, quelque chose comme ça.
Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Christelle d'avoir mené cet entretien avec moi.
Merci
et bravo.
Deux.
Est-ce que vous nous rappelez le compte Instagram?
Merci beaucoup pour l'invitation et vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sur Ta Prof de Lettres.
Merci à vous. Nicolas, est-ce que vous nous rappelez votre compte Instagram?
Merci de m'avoir invité. Ma page s'appelle Chaque livre est une fête.
Merci à tous les deux et bravo. Franchement, ils ont fait de la radio comme ça. Merci au public qui nous a rejoints nombreux cet après-midi, à toutes les équipes de Radio France qui ont permis, merci, cette émission en direct du Festival Livre Paris, et spécialement à Olivia Branger, Johanna Grabic, Martin Guénard, David Abécassis, Céline Casabrand, Virginie Noël, Francesca Fossati et Alain Fauché à la réalisation. C'était Vivien Demeyer. Un immense merci à toutes les équipes du Book Club, particulièrement à Léa Weiss-Grus et Alexandre Alaed-Begovic, qui a vraiment manigancé cette affaire. Vous pouvez discuter avec lui sur le compte Instagram du Book Club.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet. Première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.